Salut à tous, c'est Eric là, à Fayence dans le sud-est. Je voulais faire part d'une petite anecdote. J'avais laissé un message comme quoi on faisait une maraude où on apportait des couvertures et des sacs de couchage au SDF parce qu'il commence à faire froid du côté de Saint-Raphaël, on le fait tous les lundis soirs. Et il se trouve que j'ai eu plusieurs coups de fil et plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, on a entendu ton message ». Mais il se trouve que hier soir à 19h devant la gare de Saint-Raphaël, il n'y avait personne qui nous ait apporté des couvertures et des sacs de couchage. Donc c'est bien d'écouter la radio et d'imaginer que ça suffit, mais en fin de compte ça suffit pas. Bon, si des fois il y en a qui ont des remords ou qui ça trotte dans la tête, vendredi soir, rue Arson à Nice, il y a un beau repas de quartier sans soutien au Diable Bleu. Je vous en reparlerai plus tard. Ciao viva, portez-vous bien. Et des fois, débranchez la radio.
Je suis absolument outrée de voir qu'on demande à un hôpital de faire des bénéfices et que tous les médias s'emparent de ça en disant « voilà, l'hôpital est en faillite, on n'a pas à faire de bénéfices quand même sur les cancers, sur les maladies, c'est vraiment honteux ». Maintenant, on voit la Poste où on dit que la Poste doit faire des bénéfices, mais la Poste, c'est un service public, tout le monde paye des impôts pour justement avoir ce service public, pour avoir une sécurité sociale. Et là, alors où ils vont nos impôts? C'est pour qui? Qui est-ce qui s'en sert? Non, je suis vraiment outrée, voilà. C'est Christiane de Paris et je ne comprends pas. Je trouve que les postiers sont courageux de faire la grève dans une espèce d'indifférence générale et où les médias disent « Ah oui, il n'y a que 25% qui fait ce mien. » Eh ben, je les félicite de faire la grève pour nous, pour un service public sans profit. Et qui dit profit dit qu'on laisse quelqu'un. Et là, c'est nous qu'on laisse. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'appelle de là, je suis bouleversé par votre émission d'hier, vraiment. Savoir qu'un bon catholique qui gagne, quoi, 100 000 $ par an pour travailler pour Enron, qu'a quoi, 60 000 $ en action, il peut tout perdre du jour au lendemain, non, vraiment, c'est trop. Alors, moi je suis solidaire avec Orlando, je suis prêt à lui donner quelques actions d'assaut, quelques actions ST, microélectronique, quelques actions Lagardère, quelques actions Snackman.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Voilà, j'appelle parce que je me posais une question. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père... qui s'était réchappé des camps, a essayé de raconter ce qui se passait, hein, à savoir évidemment l'épuration ethnique et puis toutes les horreurs qui pouvaient se passer dans les camps de concentration. Mais il n'a pas été cru. Hein. Probablement on a dû penser que la guerre l'avait rendu fou, mais... Alors aujourd'hui, alors que circulent sur Internet des décapitations, alors que nous sommes parfaitement au courant et que nous pouvons visionner de telles abominations, je voudrais savoir ce que ça change. Je me pose cette question, qu'est-ce que ça change? Donc voilà, mon prénom c'est Agnès et puis j'habite Bègle. Je vous fais des gros bisous, au revoir.
Oui, bonsoir Daniel, Jean-Paul de Lyon. Eh bien, j'appelle pour la cagnotte avec les 150 millions de dollars de la guerre en Irak. Les Américains pourraient se payer 3 années de cigarettes gratuites. Bonsoir.
Sauf que c'est pas 150 millions de dollars, c'est 139 milliards 489 millions 300 et quelques mille dollars. À 16h23, heure française, voilà ce qu'on peut, voilà le montant de la cagnotte, c'est-à-dire le coût total de la guerre en Irak depuis son commencement. Et cette confusion, eh ben, c'est comme ça qu'on se fait avoir, parce que ces chiffres énormes n'ont aucun sens pour le commun des mortels. Le voyage continue autour de Washington. Hier, on est allé dans un petite ville, on pourrait dire un village, 1100 habitants, qui s'appelle Fort Ashby. C'est là que vivait Lindy England, vous savez, cette jeune femme dont la photo a fait le tour du monde, cette jeune femme tortionnaire qui tenait des hommes en laisse. Vous connaissez ces images épouvantables. Et on est allé dans le village dont elle est originaire, parler avec les habitants qui sont traumatisés, qui sont... oui, c'est ça, traumatisés, on peut dire. et qui nous ont raconté comment ils se sentent humiliés, mais collectivement humiliés. Ça rappelle tout à fait le temps de la guerre d'Algérie où on disait oui, elle a fait ça, mais les autres ont fait pire. Et il y a une sorte de défense collective de l'Indian Gland. On a même rencontré quelqu'un pour nous dire c'est une héroïne. C'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas le cas de tout le monde dans ce petit village, mais c'est quelque chose d'extrêmement violent. Elle va être jugée très bientôt, elle est enceinte, enfin vous connaissez cette histoire terrible. Aujourd'hui dans la Bastille, j'y suis, une nouvelle diffusion d'une émission qui vous avait beaucoup fait réagir, qu'on avait appelé Yves Cœur de Cible. Yves, c'est pas une légende, c'est un homme qui existe, c'est un homme qui avait beaucoup de privilèges, beaucoup de pouvoir, un homme tout à fait du côté du système, et qui, vous allez l'entendre, a une sorte de reprise de conscience, ou prise de conscience, comme on veut, et qui nous raconte son histoire, une histoire qui nous renvoie effectivement à ceux qui aujourd'hui sont des modèles, vivent bien, sont très heureux dans le système tel qu'il est, mais qui en fait sont beaucoup plus vulnérables qu'il n'y paraît. Voilà, c'est jusqu'à 18h, dans la base, si j'y suis, 18h ou presque, on va dire. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur, dont des réactions sur l'émission d'hier, le reportage sur les OGM en Inde et en France aussi.
Oui, bonjour, c'est Pierre qui vous appelle de la Terre. J'ai vu un paquet de cigarettes, là, il m'est venu une idée. Si sur tous les fusils, toutes les armes du monde, on mettait des étiquettes avec marqué « tirer, peut tuer », et puis des étiquettes marquées « pour essayer d'arrêter, appeler tel numéro », ben, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, ciao.
Oui, bonjour, je m'appelle Amélie, je suis du sud de Rennes. Et là, je reviens de travailler en Roumanie. Je viens attirer en fait votre attention sur un conflit qui se passe dans les Carpates, où une grosse compagnie minière canadienne veut mettre en place un énorme projet de mine d'or. Et les habitants, les Roumains en fait, de ce village se battent en fait pour ne pas partir. L'opposition est assez forte et par contre, ils n'arrivent pas à faire porter leur voix. Et je me disais que le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'était une bonne idée. Donc ça s'appelle Rocha Montana, c'est dans le département d'Alba. Ces gens, ils sont beaux, ils sont courageux et il faut leur donner plein de soutien. Voilà, il y a un site internet www.rochamontana.org et il faut les aider à pas partir en fait. Merci.
Oui, bonjour, là je suis en train d'écouter l'émission sur les OGM en Inde, c'est très bien. Quand est-ce que tu nous prépares une émission sur les OGM pour la France ou l'Europe, alors que le gouvernement français ne fait rien contre les OGM, encourage même des essais. Voilà, les gens qui détruisent ces cultures sont condamnés. Et le Conseil de l'Europe apparemment a commencé à autoriser certaines plantations de certaines semences d'OGM, voilà. Donc, faudrait peut-être foutre un peu le bordel aussi chez nous. Voilà, et j'espère qu'un jour ça viendra et que les gens vont commencer à prendre conscience, surtout ceux qui écoutent, de ce qui risque de leur arriver. Merci et continuez comme ça, c'est bien.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter. Là-bas, si j'y suis, Yves, cœur de cible.
Flight number 2, arriving from New York.
Enseignants,
instituteurs,
enseignants,
étudiants,
enseignants,
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 improviseurs,
tout va bien.
Enseignants,
enseignants,
surveillants,
enseignants,
auxiliaires,
enseignants,
infirmières,
enseignants,
agents de service,
enseignants,
vacataires,
enseignants,
bricolages.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous payons le prix d'une certaine impatience et d'un certain mécontentement. Mais il en va ainsi lorsqu'on fait des réformes, en France tout spécialement.
Une réforme, voyez-vous, c'est comme un chantier dans un appartement. Alors évidemment, il y a des désagréments et on ne les comprend toujours pas, bien parce qu'évidemment, on est en travaux et la France est en travaux, la France est en réforme. Voilà. Voilà ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, non pas ces géniards, cette France assise, cette France assistée, toujours les mêmes, dans les rues, en train de brailler et qui ne se bougent jamais le cul. Aujourd'hui, on va du côté de la France qui gagne, cette France des cadres, cette France de ceux qui font ce pays, qui ont fait ce pays, les cols blancs, comme on disait autrefois, et qui sont par ailleurs le cœur de cible de notre radio. Le cœur de cible, Yves, que nous allons entendre, est le cœur de cible de notre radio, c'est-à-dire quelqu'un, disons-le franchement entre nous, l'élite, mais oui, c'est un mot un peu tabou, mais on sait bien quand on appartient à la classe moyenne ce que veut dire ce mot d'élite. Et il va nous raconter sa façon de voir les choses après une expérience qui est la sienne, pour changer un petit peu avec ses râleurs, ses géniards et ses assistés. Avec présent à l'esprit une phrase d'un certain Sellière, un certain Sellière, qui nous dit ceci, baron de son état. Je cite, « Nous avons la conviction que l'entreprise constitue la cellule de base de la société, mais cette cellule de base n'est pas chargée pour autant d'apporter des garanties sociales à ses membres. » C'était une phrase de Monsieur Ernest Antoine Sellière, président du MEDEF, dans un magazine qui s'appelle Risque, c'était le numéro 43, et c'était en septembre 2000.
Je me prénomme Yves, je vais avoir 48 ans, je suis diplômé, j'ai exercé des fonctions importantes, DESS de gestion à l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Paris, donc Bac plus 5, Master de logistique industrielle dans une école d'ingénieurs, Master Finance dans une école de gestion, et j'ai exercé des fonctions de direction depuis plus de 10 ans. De 2000 à 2002, j'étais directeur du développement Europe pour un conglomérat, 290 000 personnes qui avaient une activité dans l'eau. Dans l'eau en bouteille et dans l'eau en bonbonne. J'avais un fixe de 120 000 euros et un variable de 30% sur les objectifs définis par l'employeur. Le mois de décembre, selon les objectifs, si vous aviez atteint vos objectifs, c'était 60 000 euros. Ce qui faisait en gros 160 000 euros bruts annuels. Une vie confortable, pécuniairement, avec beaucoup de pression, beaucoup de déplacements. Je partais le matin à 7 heures, j'entrais le soir à 22 heures, quand je couchais à la maison. Et c'est ce qui rend peut-être plus amer. C'est l'investissement, ce que vous êtes prêt à donner. Je vais pas pleurer, mais vous gagnez beaucoup, vous payez beaucoup d'impôts, vous n'avez pas le temps d'en profiter, et vous savez que ça peut pas durer. Mon activité consistait à aider la structure de management européenne à acquérir des sociétés en Europe, Espagne, Allemagne, Italie, France. Donc ça a été fait pendant 2 ans, nous avons acheté notamment des sociétés en France et on m'a proposé d'en prendre la direction générale. 130 personnes, 5 sociétés, ce que j'ai fait. Et sentant l'actionnaire qui était anglais avoir un regard, je vais dire comme ça, publiquement différent du mien en droit social. J'ai dit à mon employeur, je ne souhaite plus être directeur général, c'est-à-dire je ne souhaite plus être légalement responsable, parce que nous n'avions pas la même façon de considérer le droit du travail, et quand vous n'êtes pas d'accord avec un actionnaire, il n'y a pas 36 manières de le faire savoir, vous partez. J'ai donc démissionné, mon employeur n'a pas aimé que je démissionne de mon poste de directeur général, et a mis un terme à mon contrat de travail. Donc à 46 ans, avec une clause de non-concurrence, je me suis retrouvé au chômage.
Ça y est, je suis licencié. En plus des indemnités, ils me proposent un outplacement ou bien plus d'argent.
T'as pris l'argent ?
Non, l'outplacement pour trouver le job que je veux.
Ah, c'est puté, ça !
Quand tu vas chez le docteur, tu prends l'argent du médicament ou tu te fais soigner ? Moi, je suis allé sur syntec.evolution-professionnel.com.
85% des outplacés retrouvent un emploi avec un salaire équivalent ou supérieur.
La pression, elle était extrêmement forte, elle était quotidienne, les reportings étaient réguliers. Les reportings, c'est ces moments où vous rendez des comptes. quelle est la progression des ventes, quelle est la progression des résultats, alors c'est même plus la progression, c'est la projection. Vous dites ce que vous avez fait le mois d'avant et vous dites ce que vous projetez de faire pour le mois suivant. C'est sans arrêt. Et ces multinationales sont telles qu'il y a un nombre de strates impressionnants. Vous rendez compte à quelqu'un qui lui-même rend compte à quelqu'un, qui lui-même rend compte à quelqu'un. Et en fait, il y a plein de gens qui font rien que de rendre compte. Et la pression est énorme, bien sûr. On ne peut pas passer son quotidien à analyser des chiffres comme s'il n'y avait pas de gens derrière. Or, le plus souvent, ces multinationales gèrent des chiffres. La vie des uns et des autres, elle apparaît pas dans vos ratios financiers. C'est rare que l'on parle des gens. Et quand on parle de restructuration, le premier poste qui vient à l'esprit, c'est comment je vais comprimer ma masse salariale. Et derrière, c'est des vies. Donc, en gros, ça veut dire comment je vais faire pour gagner un peu plus ou rééquilibrer mes comptes environ des gens. Donc, la pression est énorme. Mais souvent, elle a peu de sens, elle a peu de justification, autre que garder son poste soi-même.
Mais on évite justement de penser que derrière ces chiffres, il y a des hommes. On fait ça sans état d'âme.
La pression est telle qu'au bout d'un moment, vous ne les voyez plus, ces gens. Sauf quand vous descendez, quand vous sortez de votre bureau et de vos tableurs, et que vous voyez des gens aux chaînes de production, dans l'usine, en bleu, et que un jour, vous voyez pas André, parce qu'André, il est malade, donc c'est un truc humain, ben, il n'est pas venu. Mais sinon, vous gérez des chiffres. Mais c'est certainement ce que fait ce gouvernement. Il a des masses de chiffres. Il en sort des décisions sans considération des gens. Je suis parti justement parce que ça n'avait pas de sens pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu conserver mes fonctions et continuer à ne voir que des chiffres. C'est difficile de prendre des décisions qui n'ont pas de sens simplement pour gagner encore plus quand vous gagnez déjà beaucoup. Je parle là du point de vue de l'actionnaire. C'est difficile de, sans arrêt, améliorer des profits, sans considérer qu'il faut que chacun ait sa place et que chacun ait un emploi. Mon actionnaire anglo-saxon demandait toujours plus de résultats. Et si j'avais pu gagner plus d'argent avec personne, ça l'aurait ravi. C'est pas ma vision de l'entreprise. L'entreprise n'arrête pas de clamer en France et ailleurs qu'elle est citoyenne. Faut qu'elle le montre. J'ignorais, pour être tout à fait sincère, que ce serait si dur de retrouver un emploi. Je pensais que, avec des succès avérés d'entreprise, avec une expérience significative, des compétences, des diplômes, ce serait plus simple. Je suis pas sûr aujourd'hui, si j'avais su que c'était aussi difficile, que je serais parti comme ça. Je dois être sincère là-dessus. Mais j'en suis parti pour cette raison-là. Je comprends pas qu'on veuille toujours plus. Qu'on dise aux gens toujours plus pour nous, toujours un peu moins pour vous. C'est pas ma vision de l'économie de l'entreprise.
Objet cadeau recherche pour grands magasins Paris et périphérie. Vendeuse. Excellente présentation, expérience CDD, novembre, décembre. Fixe plus prime. Pour rendez-vous téléphonique. Distribution objet cadeau recherche pour grands magasins. Ça m'intéresse pas. Boulangerie 20e recherche caissière vendeuse mi-temps, après-midi repos dimanche et lundi. Boutique de luxe, table maison cadeau. Boutique recherche vendeuse, stock 81 Alésia Paris 14e. Contrat de qualification, formation gratuite rémunérée. Ouais, bien sûr, niveau bac.
Cette jeune femme qui lit des annonces à la NPE, on l'a enregistrée il y a une dizaine d'années, lors d'un reportage sur l'emploi, éternel reportage, toujours le même. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le même genre. C'est pas une jeune femme qui cherche un emploi de vendeuse. Non, 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 c'est la crème de ce pays, de cette économie, ce dont nous sommes le plus fiers et ce dont il est évident qu'il y a nécessité dans un grand pays moderne avec une économie moderne et de la concurrence, c'est ça qu'il nous faut. Et là, c'est comme comparable à quoi un officier supérieur, peut-être, Yves, cœur de cible. Oui, c'est tout à fait comparable. Eh ben voilà, il se trouve, et ça c'est un grand mystère quand même, que certains hommes sont doués de conscience. Ça paraît surprenant. C'est pas forcément les plus cultivés. C'est pas ceux qui ont une religion. C'est pas ceux qui ont des parents qui leur ont transmis forcément une expérience. C'est très curieux, mais c'est très mystérieux. Il y a des hommes doués d'une conscience, doués de ce que d'autres doivent appeler des états d'âme. Yves et ses états d'âme, je suppose que ses collègues devaient l'appeler comme ça. Et qui un jour refuse d'avaler des couleuvres parce que c'est vraiment trop dégueulasse. C'est vraiment trop dégueulasse. On peut pas collaborer tout le temps, même si on a peur. On collabore parce qu'on a peur. L'homme n'est pas né bon ou mauvais, il est né affamé, nous disait Brecht. Et voilà, c'est ainsi que Yves a grimpé dans la vie, et oui, l'ascenseur social. Et puis un jour, il a trouvé que c'était dégueulasse, qu'il fallait pas le faire. Qui lui avait dit qu'il fallait pas le faire? Allez savoir. C'était au fond de ce type, voilà. Un jour, il a dit non. Il a pris les choses à contre-courant. Et ça, c'est très très grave dans notre monde libre.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Si je souhaitais rester dans mon métier, là où je pouvais mieux me vendre, il fallait que pendant un an, je fasse autre chose. Que j'en ai profité pour faire ce master finance qui date de l'année dernière, c'est-à-dire de 2003. Et puis je me suis mis à rechercher un travail dans l'eau. Les seniors ont des difficultés énormes à retrouver du travail. Ils sont très 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 souvent mis en compétition avec des juniors. J'ai dû envoyer près de 230 CV, tout profil. Je crois avoir eu un seul entretien. Il y a environ 5000 candidats pour un poste. En plus, vous devez, pour avoir une éventuelle chance de rebondir ou de reprendre un poste, vous devez forcément être toujours souriant, presque bronzé. Il faut qu'on vous trouve bonne mine. Il faut paraître pétulant. À ceux que je ne connais pas, je dis les choses. À ceux qui m'ont vu dans mon ancienne expérience professionnelle, je ne dis pas les choses. Socialement, c'est très dévalorisant de dire que vous êtes demandeur d'emploi. Et je ne suis pas certain que mes anciennes relations savent que je pointe dans une ANPE en ayant été à 160 000 euros de salaire et en ayant été directeur général. Ils me voient plus souvent au golf qu'à l'ANPE.
Est-ce que c'est pas aussi un formidable gâchis de compétences?
Ah, c'est certain que quand vous allez dans les réunions de chômeurs, vous sentez quand même, quoi qu'en dise le pouvoir politique, qui traite les chômeurs de profiteurs et qui les caricature à l'extrême en les imaginant sur une chaise longue à toucher leurs allocations avec un cocktail à la main, que tous ces gens ont envie de faire des choses, tous ces gens ont des projets, ils n'ont pas envie de toucher les allocations, de rester à la maison et de rien faire. C'est honteux d'entendre ce gouvernement dire que les chômeurs ne recherchent pas de travail et lire dans la presse financière que François Fillon va durcir les conditions de contrôle des chômeurs, c'est une véritable honte. Que ce monsieur aille au chômage, qu'il cherche un emploi et qu'il voit d'y répondre à des postes à 1000 euros brut en sachant tout faire, parce que les entreprises demandent, c'est même plus un canard à cinq pattes qu'elles demandent, c'est cinq pattes, deux têtes et quatre ailes. Que ce monsieur aille voir si les gens ont l'air de s'amuser. Autant le personnel de la NPE des SCDI que les demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de profils. Moi, dans ces réunions, j'ai rencontré des ingénieurs qui ont 50 ans et qui disent « c'est fini ». Pour moi, j'ai fait de longues études, j'ai occupé des postes importants, mais je sens bien que ce sera terminé. Il y a de plus en plus de cadres entre 40 et 50 ans qui sont à la lisière d'une véritable panique de tomber dans la précarité extrême. Parce qu'à 50, c'est très difficile, malgré votre expérience, malgré votre niveau de diplôme. Il y avait dans les dispositions sociales une loi qui s'appelle la loi de Lalande, qui, lorsqu'une entreprise voulait licencier quelqu'un de 50 ans, ça lui coûtait plus cher. Ça aussi, ça a été levé. Et malgré ça, les entreprises ne recrutent plus de seniors. Pourquoi recruter quelqu'un de 50 ans? Puisqu'on peut avoir, puisqu'on veut lui faire faire des tâches assez basiques, quelqu'un de plus jeune, de plus malléable, de beaucoup moins cher, et qui sera tenu par des échéances. On arrive aujourd'hui, par cette politique, à faire une population qui a peur. Je suis pas très inquiet pour les polytechniciens au chômage, mais à part cette super élite, ou les énarques, il me semble, en tout cas c'est ce que je perçois des réunions de chômeurs, que plus personne n'est à l'abri, quel que soit son niveau, quel que soit son emploi, sauf à ne jamais, jamais faire de vagues ou rentrer dans la fonction publique. Les sondages le montrent. L'ambition des jeunes aujourd'hui, c'est de rentrer dans la fonction publique pour ne pas avoir sans cesse au ventre l'inquiétude de la recherche d'emploi. Mon fils est en troisième année de Sciences Po et je l'encourage, au regard de ce contexte économique et de cette classe politique, une fois ses diplômes, à partir à l'étranger. Il ne nous semble pas, ma femme et moi, que les jeunes soient enthousiastes. Il y a une véritable peur, et de l'emploi, et du reste. Et en termes d'ambition professionnelle, de projet de vie, il ne me semble plus que la France soit porteuse. Donc on dit à notre fils, prends tes diplômes et barre-toi. Va-t'en. Ma femme ne travaillait pas pour s'occuper de notre fils. On estimait qu'on n'avait pas besoin de salaire et que le mien suffisait à faire vivre tout le monde. Même cela est difficile à valoriser. Une mère qui reste à la maison, qui s'occupe de son... Alors je ne veux pas paraître larmoyant parce que c'est pas le cas, mais de sa famille et qui suit la progression scolaire de son enfant, même cela, les employeurs ne le vivent pas bien. Comment pouvez-vous retourner avec un enthousiasme intact sur le marché de l'emploi alors que vous l'avez quitté il y a 5 ou 6 ans? Et même si vous expliquez que ça n'est pas parce que vous vous occupez de votre maison, de votre famille et de votre enfant que vous avez cessé de réfléchir, d'être active, d'être dynamique et d'être entreprenante, c'est impossible. Et elle cherche, elle, maintenant depuis plus d'un an et sans rien trouver. Donc on est deux, effectivement, à mener des recherches actives d'emploi. Alors quand j'entends l'État dire qu'il n'y a aucune honte pour que les maires retournent sur le marché du travail, dans la réalité, je suppose que Madame Fillon ne cherche pas de travail et Madame Raffarin non plus.
Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base des sommets, c'est phénomène, laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base des sommets, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Moi je ne comprends pas pourquoi ils n'avancent pas, si les jeunes n'ont pas d'emploi, ben ils ne consomment pas. À quoi ça sert que mes parents m'aient payé des études? C'est lent, c'est dur d'attendre, c'est comme ma licence me dispense, je pense un peu plus de chance, un peu de bonté. Je m'en dis pas putain la deux. Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base des sommets, c'est phénomène, c'est phénomène. Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base des sommets, c'est phénomène, c'est phénoménal.
Bah ouais, mais plutôt un rad, hein. Et l'ascenseur social en question. Plutôt en rad aujourd'hui, depuis des années, nous racontons, et nous ne sommes pas les seuls évidemment, ce monde de l'exclusion, du chômage. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes qu'on montre, hein, la chair à canon de la guerre économique. Voilà, ils sont faits pour ça, c'est les prolos, c'est, ils avaient qu'à se remuer, ils avaient qu'à faire des études, voilà, et on est désolé, mais eh ben, il semblerait bien que cette menace ne se limite plus à cette catégorie sociale, comme on dit, mais que de plus en plus de ceux qui autrefois étaient les cadres, les chouchous, les cols blancs et l'élite du pays soient de plus en plus menacés, même s'il s'agit évidemment surtout de ne pas le montrer pour toutes les raisons que Yves nous indique. C'est une expérience vécue vraiment de l'intérieur, exprimée, expliquée très très sobrement. N'empêche que Yves, cœur de cible, est un repenti.
Nous sommes pieds noirs, nés en Algérie, donc on est venu en 62, je suis né en 56, donc j'avais 6 ans quand je suis rentré en France. Une partie de la famille a été dans le sud, parce qu'elle cherchait le soleil, comme elle l'avait eu en Algérie. Une autre partie pensait que c'était à Paris que les chefs de famille trouveraient du travail. Et c'est vrai que chacun a pris sa vie en main. Et je n'ai pas d'exemple dans ma famille de gens qui étaient au chômage. C'était pour eux inconcevable. C'est une vraie lecture, une vraie différence de génération et d'approche des valeurs, et de la vie en communauté. Pour nous, les enfants, c'était plutôt une période heureuse quand on a rejoint la France, parce que on était 14 dans un appartement, et donc c'était plein de vie. C'était beaucoup moins drôle pour les chefs de famille. Aujourd'hui, je le comprends maintenant que je suis chef de famille moi-même, mais on les voyait partir le matin, dans la rue, chercher un travail. Il fallait qu'ils nourrissent leur famille, ils étaient partis sans rien. Et ma mère était institutrice, et mon père était commerçant, enfin ce qu'il avait trouvé à l'époque, il fallait nourrir. Et puis après, il a ouvert une auto-école. Ma mère, qui était enseignante, s'est mise en disponibilité, parce qu'elle avait 3 enfants, et elle l'a aidée. Je crois qu'ils ont toujours travaillé ensemble toute leur vie. C'est un milieu modeste, et malgré mes revenus élevés, j'ai jamais voulu rejoindre un clan. J'aurais pu aller dans un autre quartier, j'aurais pu me mettre au golf. Je suis pas sûr que mes parents portent un regard affectueux sur ma situation aujourd'hui. Être au chômage pour eux, c'est une honte. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé. J'entends mes parents extrêmement choqués de cette gestion de la canicule. Alors peut-être parce qu'ils ont l'âge de ces gens qui en ont souffert et qui en sont morts. Mais ma grand-mère a vécu avec une de ses filles jusqu'à son dernier jour, pas en maison de retraite. Donc cette libéralisation s'exerce à tous les niveaux. Je trouve ça assez tragique.
T'en fais pas, mon petit gars.
Je m'épuise à envoyer beaucoup de CV, et à ce moment-là, j'écris à Monsieur Raffarin, Premier ministre, et à François Fillon, en leur disant en substance, vous engagez des réformes, vous semblez vouloir remettre tous les Français sur le marché de l'emploi, laissant supposer que nombreux sont ceux qui s'en sont éloignés. Voilà mon parcours, voilà mon âge, voilà mes diplômes. Je vous envoie mon CV et je serai ravi de répondre à une offre de travail, qu'elle vienne de vos structures publiques ou d'entreprises privées avec lesquelles vous seriez en relation. Peu de temps après, je recevais un courrier du directeur général de la NPE. Il a donc recommandé à une agence cadre de la NPE d'entrer en relation avec moi. Et cette agence m'a proposé un bilan de compétences. J'ai dû dire à l'agence que c'était le 3e qu'on me proposait, j'en avais déjà fait 2. L'agence a étudié mon cursus, mon parcours, et m'a dit « ça va être très difficile de faire quelque chose pour vous. Par rapport à votre profil, on va peut-être vous aider à remettre votre CV sous forme thématique. » J'ai essayé de signaler à l'NPE qu'à mon sens c'était structurel, le marché de l'emploi, et que c'était politique, et qu'il ne s'agissait pas de mettre ma photo à gauche plutôt qu'à droite. En tout cas, toujours est-il que j'ai accepté. Je maquis mon CV avec l'aide de la NPE, ça c'est clair. Vous voyez qu'il y a 2 diplômes qui ont déjà sauté. Et on a vraiment synthétisé à l'extrême pour dire aux entreprises, recrutez-moi, je suis un peu con, mais pas trop, un peu intelligent, mais pas trop, et vous n'aurez pas de problème avec moi. Donc voilà en gros l'idée et les recommandations. Donc on paye des consultants pour m'apprendre à faire ça. Alors on est passé de directeur commercial à responsable commercial, pour pas trop faire peur. Il n'y a plus aucune mention de directeur général. Et 50% des diplômes ont été enlevés, et ça tient bien sur une page, donc on peut lire rapidement et passer au suivant.
Et voilà. En plus, vous êtes passé de la couleur au noir et blanc.
En plus, oui. Après, vous avez toutes ces recherches par Riga qui s'excuse, qui est désolé. Il me remercie de l'intérêt que j'ai porté au groupe. Il a examiné ma candidature, et malgré ses aspects positifs, il est au regret de me dire non. Et ça va dans tous les profils, hein. On a toutes sortes de responsables des ventes. Vous voyez le Crédit Lyonnais qui était également au regret. C'est quand même un sacré constat d'échec, me semble. Au-delà de ça, la question qui se pose, c'est comment peut-on dire « Vous allez travailler le plus tard possible jusqu'à 65 ans, parce qu'il faut qu'on paye les retraites, quand il n'y a pas de travail ?» Aujourd'hui, je travaille avec une agence recommandée par la NPE, un prestataire extérieur, qui est en train de m'aider à enlever mes compétences sur mon CV, à réduire mes diplômes pour être présentable et trouver un poste alimentaire, c'est-à-dire que téléacteur, vous êtes sur un plateau téléphonique et vous vendez de l'assurance, vous vendez n'importe quoi, vous êtes téléacteur. Et donc, bien sûr, si vous, l'entreprise qui vous recrute ne peut pas recruter un téléacteur de 48 ans, bac plus 6, qui a été directeur général. Donc, pour qu'elle le recrute, il faut que son profil soit vraiment un profil quasi basique. Et donc, aujourd'hui, les services publics aident les seniors à apparaître comme des gens qui n'ont eu que des petites expériences, que des petites responsabilités, voire pas de diplôme. Avec ça, on peut espérer trouver un poste.
T'en fais pas, mon petit gars. Alors que les usines sont en pleine crise, le monde s'imagine qu'ils sont perdus. T'en fais pas, mon petit gars. Tu peux créer l'emploi, t'en fais pas, mon petit Jean, tout n'est pas perdu. Je suis dans tous mes états. Je viens d'être en chômage. Dans quelque temps, je n'aurai plus d'argent. Je n'aurai plus d'argent. T'en fais pas, mon petit gars. Tu peux créer l'emploi. T'en fais pas, mon petit Jean. Tout n'est pas perdu. Dans quelque temps, je ne toucherai plus le chômage. Je serai comme un clochard. Alors que faire? Alors que faire? T'en fais pas, mon petit gars. Tu peux créer l'emploi. T'en fais pas, mon petit Jean. Tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Il faut reprendre courage. Alors tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. T'en fais pas, mon petit gars. Tu peux créer l'emploi. T'en fais pas, mon petit Jean. Tout n'est pas perdu.
Et voilà la preuve que le message de Monsieur Raffarin est arrivé dans la France profonde, ce chant spontané d'un monsieur qui s'appelle Marcel Lehon. On n'en sait pas plus, on sait simplement qu'il s'appelle Marcel Lehon. J'ai parlé de Monsieur Raffarin, mais on pourrait évoquer également la figure d'Alain Madelin, qui jadis a créé les cercles libéraux, qui avaient pour but de sortir de l'État-providence pour que chacun, évidemment, crée son entreprise. On voit que le message est arrivé dans une partie de la France d'en bas. On est avec Yves Cœur de Cible, qui nous explique ce qu'est exactement un bilan de compétences.
T'en fais pas, mon petit gars, tu peux créer l'emploi.
Près de 3 bilans de compétences en 2 ans, ça coûte très cher, très 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 cher, à la collectivité, pour rien. Aucun emploi n'est présenté. Ça ne débouche concrètement sur rien, ça calme, à mon sens, l'angoisse des chômeurs qui ont le sentiment de s'engager dans quelque chose qui les empêche de penser à la réalité du marché de l'emploi. Pendant que vous êtes avec ces prestataires, vous parlez de vous, ça occupe, tout ça coûte cher, pour rien.
Mais en fait, ça fait vivre aussi pas mal de gens, non? Les formateurs, les psychologues qui font les bilans de compétences, non?
Bien sûr, c'est un peu ça qui calme un peu votre colère, c'est que vous vous dites que ces gens seraient aussi au chômage. Si vous n'étiez pas là, croyez-moi, pour avoir passé des bilans de compétences, vous remplissez des cases. En gros, c'est est-ce que vous avez peur qu'une araignée vous grimpe dessus? Ben oui, ah, donc vous n'êtes pas un homme qui aimait les risques. C'est assez sommaire, mais c'est globalement, croyez-moi, plutôt ça. La plupart des bilans de compétences concluent par « vous devez trouver la réponse, elle est en vous, cherchez bien ». Mais ils sont tellement nombreux et légions à vivre de ces bilans et de ces prestations facturées à la NPE, que ce serait encore plus dramatique, que le chômage serait encore plus grand s'il n'y avait pas le traitement des chômeurs. Il y a quand même des millions de chômeurs qu'on occupe, à qui on propose plein de choses qui coûtent très cher. C'est une économie, bien sûr, c'est une économie. Il semble que les associations de chômeurs l'aient compris, qui se regroupent aujourd'hui pour faire entendre leur voix, et que François Fillon et Raffarin aillent voir comment se tiennent les réunions de chômeurs qui ont vraiment la peur au ventre, et comment c'est une réalité. Aujourd'hui, ça touche absolument tout le monde. Celui qui avait beaucoup, comme moi, parce que c'est beaucoup, 160 000 euros, à celui qui avait peu, mais la réforme de l'Inédic, et je reprends là-dessus, a mis de nombreux Français dans la même situation. Il n'y a pas de travail. On voit des agences aujourd'hui organiser le chômage des seniors. À 45 ans, on vous appelle déjà senior. C'est gravissime. J'ai reçu... en janvier 2003, une lettre très banale de l'UNEDIC, expliquant que j'avais certainement vu dans la presse que les choses allaient changer, et qu'une nouvelle convention avait été négociée, et que ça changerait les choses pour moi aussi, mais que le moment venu, on m'informerait de mes nouveaux droits. Ça n'est que lors d'un contrôle d'emploi que j'ai découvert à l'Agence nationale de l'emploi de laquelle je dépends, que ma durée d'allocation avait été amputée de 7 mois. Je n'ai jamais été informé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore changer les choses et dire aux chômeurs, ou vous revenez avant, si les pouvoirs politiques le comprennent, ou comprennent la nécessité d'un tel geste, ou encore amputer les chômeurs, comme voudrait le faire François Fillon, considérant qu'il profite, et leur dire, mais il vous restera plus que 3 mois, il vous reste 3 jours. Je crois que les associations de chômeurs ont estimé à plus de 860 000 le nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui des recalculés. Malheureusement, ce sont des gens qui, à partir de janvier 2004, sont jetés par vagues de 30 000 mensuellement dans la précarité, sans allocation. La modification de la convention UNEDIC s'inscrit, à mon sens, dans un cadre plus large, qui est un véritable passage vers une économie libérale. Ça vaut pour l'assurance maladie, comme ça vaut pour l'emploi, comme ça vaut pour vos assurances personnelles. Pourquoi payer plus si vous n'avez pas d'accident? Donc on est en train d'individualiser l'ensemble de toutes les prestations économiques, sociales, financières. Et c'est la seule explication, semble-t-il, possible vers ces modifications. Les intermittents, pourquoi toucheraient-ils s'ils travaillent que quelques jours? Et ainsi de suite. Donc c'est vrai que la compétition est, à mon sens, orchestrée par un patronat et par un pouvoir politique qui veut avoir une main-d'œuvre salariale très basse. C'est une question simple. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont en France? Il y a 250 000 jeunes qui arrivent tous les ans en France. Il y a 12 000 par an doctorats en France. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces diplômés? Puisqu'on taille dans tous les budgets, ce sera vraiment une économie à l'anglaise ou effectivement ou à l'irlandaise. Il n'y a pas beaucoup de chômage, mais la main-d'œuvre est assez peu qualifiée. C'est le cas en Espagne, qui a choisi une économie qui est en forte croissance, mais principalement parce que c'est une économie de services. Il n'y a pas de recherche et de technologie, en tout cas très peu. Il n'y a pas de main-d'œuvre très 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 qualifiée, et c'est un choix politique. Après, est-ce que c'est un choix qui se paiera? C'est autre chose.
T'en fais pas, mon petit Jean, tout n'est pas perdu.
On m'a dit à la NPE, vous comprenez bien, le gouvernement essaye de transférer ses chômeurs, des gens presque comme vous. Il y a bien un moment où vous allez devoir manger. Donc, de directeur général, si vous devez passer serveur, il faudra que vous passiez serveur. Donc, aujourd'hui, la tâche, d'après cette ANPE, pressée par le MEDEF, c'est de mettre des gens qui sont au chômage, même si ça n'a rien à voir avec leur qualification professionnelle et leur expérience, dans des métiers qu'il faut combler. Il faudra bien les manger pour tous ces chômeurs. Eh ben, que chacun aille sur les chantiers, même si à 50 ans il faut manier du béton, c'est ou ça ou la rue. Il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, ce gouvernement essaye de faire croire qu'il n'y en a pas d'autre. À l'évidence, il y en a d'autres. Il y a bien des pays qui ont montré qu'il y avait d'autres alternatives. Ça dépend, là encore, du regard qu'on veut porter sur la vie, sur les autres. Choisir le risque dans une économie de plein emploi, vous quittez, vous partez, vous revenez, vous voulez être chômeur, vous voulez être serveur, vous voulez être ingénieur, c'est à vous de décider du parcours de votre vie. Mais lorsque vous n'avez aucune prise sur les critères qui sont décidés par un gouvernement qui précarise l'ensemble des couches, je ne parle même pas des classes sociales, là, vous n'avez plus, vous, de gestion du risque. On vous l'impose. C'est pour ça qu'à mon avis, plus rien n'est entre les mains des gens, sauf à descendre dans la rue, ce qu'ont fait les chômeurs. Il semble que ce soit la seule manière de se faire entendre, aujourd'hui, dans cet état.
Vous-même, vous participez aux manifestations de chômeurs?
Écoutez, c'est la première fois que je me rendais à ce genre de manifestation. Mais j'y étais, et j'étais plutôt fier, parce qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait des personnes âgées, il y avait des gens peu formés, il y avait des gens très formés. Bien sûr que tous ces gens espèrent que ce gouvernement sera sanctionné. Forcément, vous ne pouvez pas dissocier des choix politiques de ce que vous vivez au quotidien.
Merci, monsieur. Ça va bien.
Merci, monsieur. Ça va bien.
Merci.
Merci, monsieur. Ça va bien.
Merci, monsieur. Ça va bien.
Merci, monsieur. Ça va bien.
Merci.
Merci, monsieur, ça va bien.
Merci, monsieur, ça va bien.
Objet cadeau recherche pour grand magasin Paris et périphérie.
Merci.
Merci, monsieur, ça va bien.
Expérience CDD.
Merci, monsieur.
Fixe plus prime.
Ça va bien.
Rendez-vous téléphonique. Distribution objet cadeau recherche pour grand magasin.
Merci.
Merci, monsieur, ça va bien.
Boulangerie.
Merci, monsieur.
Vendeuse mi-temps.
Ça va bien.
Après-midi, repos, dimanche et lundi. boutique de luxe, merci, monsieur, table, maison cadeau.
Merci.
Boutique,
merci, monsieur, ça va bien.
Vendeuse, stock 80.
Merci, monsieur.
À Paris 14e.
Ça va bien.
Fierté, c'est le mot qui m'a étonné dans ce que dit Yves. La fierté, du chômeur qui descend dans la rue pour avoir suivi pas mal de ces manifs dans ces dernières années, dans nos reportages. C'est pas souvent qu'on la sent passer, cette fierté. Et pourtant, lui, il l'a ressenti, il l'a vécu et il a compris énormément de choses. Il nous fait comprendre énormément de choses. De l'intérieur, c'est-à-dire du côté de ceux qui servent les dominants, pour employer des mots un petit peu pompeux. Et cette peur au ventre, eh ben, on découvre, et cette humiliation, on découvre que ce n'est pas toujours les mêmes qui la ressentent, qui l'éprouvent et qui en souffrent, de cette souffrance sociale qu'il y a bien longtemps nous avions appelée souffrance en France.
Merci, monsieur. Ça va bien.
La spirale est vraiment efficace et rapide. Plus de travail, plus d'emploi, donc plus d'argent, plus de loyer. C'est pas avec le RMI ou de 400 euros ou la SS de 400 euros que vous payez une vie. C'est faux. Et on invente de nouveaux outils de retour à l'emploi, des CEI, des CES, des CEA, enfin, c'est vraiment des machins qu'on donne des emplois, qu'on les appelle des emplois. On voit pour la première fois France Télécom qui a réduit ses effectifs de 26 000 personnes l'année dernière. C'est monstrueux. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui, pressé par un patronat, veut fragiliser les gens. C'est plus facile de régner sur des gens fragiles que régner sur des gens solides. Et quand vous avez peur de perdre le peu que vous avez, eh ben vous descendez pas dans la rue, vous allez travailler. On s'écarte effectivement de ces préoccupations qui étaient au lendemain de la guerre, de réunir un peuple derrière des valeurs communes. Aujourd'hui, on divise ce peuple. Et je ne connais pas, à part une très faible portion de profil métier, de catégories qui se sentent protégées par leurs diplômes et par leurs expériences. Ils sont architectes, c'est pareil, ils ont peur. La plupart d'entre eux ont eu un long cursus universitaire. Il a déjà fallu passer par des concours. Un concours, ça veut dire je suis meilleur que l'autre, puisqu'on prend pas tout le monde. Et malgré ça, il n'y a aucun moment où ils peuvent se dire j'ai planté, je vais un peu récolter. C'est que chacun de nous peut faire, c'est se réunir avec l'autre pour peser sur le politique. Peser, c'est voter. Ça ne peut être qu'une décision politique. Quel que soit le grand dossier, qu'il soit de la sécurité, de la maladie, de l'emploi, ce gouvernement souhaite une économie ultra-libérale, individualiste, de manière durable. Il y a un véritable danger, et il faut que les gens l'expriment.
Marie, 26 ans.
Pierre, 44 ans.
Brunel, 30 ans.
Et 47 ans.
Recalculé depuis février 2004.
Nadia, 40 ans.
Pas encore.
Je suis Anne, recalculé.
Je suis en octobre 2003.
Rémi, seul.
Recalculé. Madeleine, 60 ans. ASS,
3 ans. Je suis recalculé depuis le 12 février. Je serai au terminal cet après-midi.
Merci, monsieur. Ça va bien.
C'était une nouvelle diffusion d'Yves Cœur de Cible, reportage de Claire Auter. Merci à Yves, à Leïla Lost, au Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, à AC contre le chômage, Agir contre le chômage, au 01 43 73 36 57, et à l'APIS, l'Association pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité des Chômeurs et Travailleurs Précaires, au 01 56 82 52 25. À la technique, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert.